On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
C'est un ravioli avec une farce de porc et à l'intérieur, il y a un jus qu'on obtient en faisant fondre, cuire une gelée qui a été mise à l'intérieur et qui, pendant la cuisson, vient imprégner le porc.
Regardez comme elle est belle, cette viande de bœuf. Je vais en faire mon bœuf au fun aux haricots noirs. C'est l'un des plats cantonais les plus répandus sur la carte des restaurants à thème.
On a modernisé les dimsum, on a raffiné les dimsum, mais avant ça, c'est d'abord un plat traditionnel.
Le Long Tao est un célèbre restaurant de Hong Kong, réputé pour sa cuisine traditionnelle cantonaise. Ce plat est réalisé avec des foies de poulet, du porc maigre et du porc gras. Aujourd'hui, les gens font très attention à leur santé. Alors, je cuisine ce plat avec des champignons à ballonne. Et les gens le dégustent avec la nostalgie des temps anciens.
Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va déguster, vous mène à la baguette, mais en douceur. On va même bercer vos papilles, chers auditeurs, dans l'atmosphère réconfortante d'une famille chinoise. Au menu, des recettes délicieuses, très faisables. Oui, oui, c'est une promesse. Originale et d'influence à la fois cantonaise, hongkongaise et du Jiangsu. Le Jiangsu, c'est une province côtière de l'est de la Chine. Eliane Cheng, bonjour.
Bonjour.
Vous avez grandi à Paris dans une famille chinoise qui est justement originaire du Jiangsu, entre autres, immigré dans les années 50. Vous dévoilez dans un livre très émouvant les meilleures recettes de votre enfance. À la table d'une famille chinoise, recettes de mes parents aux éditions alternatives. Un livre que vous avez d'ailleurs, et c'est ça qui fait aussi tout le charme de votre livre, illustré avec de superbes dessins au crayon de couleur. Il paraît que vous êtes illustratrice amateur. Bah moi, je veux bien vous embaucher si j'étais éditeur. Franchement, vos dessins ont un charme fou. Derrière votre poste, affûtez vos couteaux. Il y a une recette que va nous présenter Eliane dès le début de cette émission qui va vraiment faire son petit effet, qui n'est pas très compliqué à faire. Allez, juste un petit indice sans la dévoiler totalement.
Il y a du poulet.
Il y a du poulet. Génial. On vous retrouve dans un instant. Alexandre Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mieux connu dans la sphère des blogs et des réseaux sociaux sous le nom de...
Le Gastronome Parisien.
Absolument. www.legastronomeparisien.fr. Et il vient, le garçon, de monter un autre site internet très très riche en informations pour tous ceux qui s'intéressent à la cuisine chinoise et à Hong Kong en particulier. Je vous laisse donner l'URL.
parishongkong.fr.
Ouais, superbe, superbe.
Une mine
pour les échanges entre gourmets parisiens et gourmets hongkongais. On va évidemment avec vous cuisiner plein de jolies choses. Vous en avez apporté, mais alors avec une générosité toute chinoise. J'aperçois notamment une aile de raie. Dites-nous un peu ce que vous nous avez apporté.
Alors j'ai apporté du porc laqué, une salade de poulet concombre avec une sauce au vinaigre noir, et puis une aile de raie vapeur, gingembre et ciboule.
C'est vous tout ça?
Oui, c'est moi tout ça.
Voilà, c'est chinois. Alors pourquoi Alexandre Fontaine et la Chine? Il va nous expliquer le lien à ce pays dans un instant, évidemment. Elvira Masson, bonjour.
Bonjour à tous.
Notre bec sucré a encore frappé.
Ben oui, avec des couleurs un peu détonnantes.
Flashy,
il y a du rose,
c'est naturel,
il y a du
tout
jaune.
Ça, ou pas ?
C'est tout ce qu'il y a de plus naturel.
Ah bon ?
Du rose, du jaune, du vert, ce sont des desserts comme à Hong Kong, mais à Paris.
Incroyable.
Ah non, incroyable, vous allez voir, il y a un petit phénomène qui est en train de se passer.
Elvira, là, elle est carrément en train de s'appuyer.
Je suis paradis, moi.
Bon, on va aussi boire un petit peu de vin, et ça se passe avec notre amie Sylvie Augereau, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien, Sylvie?
Je suis ravie d'être là, moi je suis un peu accro à la cuisine chinoise, j'ai deux cartes de fidélité à la muraille de Chine à Saumur.
Ah, carrément. Génial, et vous allez trouver de quoi l'escorter version liquide, cette cuisine chinoise.
C'est pas facile à escorter la cuisine chinoise. D'ailleurs, j'ai jamais senti autant d'arômes dans ce studio là. Ça enveloppe et je suis contente quand même que le vin arrive à passer dessus.
Eh ben, on va voir quoi d'ailleurs. Un vin, mais pas si chinois que ça. Hein.
Pas si chinois, plutôt allemand, alsacien.
Alsacien. D'accord, l'Alsace c'est l'Allemagne pour vous. Très bien.
Désolé, c'est l'accent.
Non, c'est bien. Ça commence bien cette émission. Il touille l'émission derrière la vitre de la régie. Hélène Bizio, Sacha Trop, Nadia Chougui, Djoubaka pour la programmation musicale. Réagissez à l'émission avec Twitter. Il y a le mot clé, on va déguster, notre mail aussi, on va déguster à radiofrance.com. Juste avant de plonger dans les marmites chinoises, une petite surprise champêtre.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Moi, ce qui frappe d'entrée, c'est le panorama qui s'offre à nous, qui est des arbres, de la prairie, et puis là-bas, au fond, au-dessus des arbres, la côte rouennaise, qui est aujourd'hui dans la brume, mais la côte rouennaise et son vin, notamment, voilà.
La côte rouennaise et son vin, Sylvie Augereau. Évidemment, et la côte rouennaise, c'est le paysage de toute beauté qu'on aperçoit depuis les cuisines de la nouvelle maison...
Trois Gros.
Eh oui, maison Trois Gros. Trois Gros, un des patronymes les plus connus de la gastronomie française, évidemment. Le nom d'un fameux restaurant, installé quand même, ou qui était installé depuis 1930 face à la gare de Roanne. Cette adresse mythique, 3 étoiles depuis 1968, presque un demi-siècle de 3 étoiles au guide Michelin. Eh bien, cette adresse vient de déménager à la campagne, dans le village de Houches, à 8 kilomètres de Roanne. La maison Trois Gros, c'est désormais un domaine de 17 hectares. Un manoir transformé en hôtel et des bâtiments agricoles restaurés avec une intelligence folle. Dans un style à l'opposé des codes classiques du luxe, la famille Trois Gros est beaucoup trop intelligente pour plonger dans le luxe bling bling, etc. Évidemment, c'est l'architecte Patrick Bouchain, très réputé, qui s'est occupé de l'affaire. Jamais d'ostentation. Et dans cette nouvelle écrin champêtre, quelques jours avant l'ouverture, le 18 février dernier, j'ai rencontré Michel Trois Gros. Et son fils César, 30 ans, chef de cuisine qui incarne la 4e génération dans cette famille de cuisiniers quand même. Le père et le fils allument pour la première fois les fourneaux de leur nouvelle adresse. Je suis fier, j'y étais. Ils m'ont préparé une toute nouvelle création entièrement végétale. Une salade de carottes, mais un peu particulière.
On y va, on va voir César. César, tu es là? Donc César est en train de nous préparer avec de la carotte. Une petite entrée toute nouvelle.
Bonjour César.
Bonjour François-Régis.
Qu'est-ce que vous faites?
Alors, très simplement, j'épluche des carottes. Mais je les épluche jusqu'au bout. Donc, j'ai enlevé la première peau à l'économe qu'on met dans le compost. Et puis, je continue avec mon économe jusqu'à ce que la carotte soit entièrement épluchée. Donc, en fait, je réalise des très fines tranches de carottes. Et ensuite, on va les faire frire. Alors, tu vois, je mets les petits copeaux en friture, là. Donc, une friture pas trop chaude parce que, vu que c'est très fin, tu vois, il faut en fait arriver à avoir le côté croustillant et non pas amer de la carotte qui pourrait brûler à une température un peu trop élevée. Donc, en fait, là, on est à 130-140 degrés.
D'accord.
Et tout doucement...
On voit que c'est pas agressif, d'ailleurs. On sent que la carotte, elle est plus caressée par la friture.
Voilà, en fait, on va continuer. C'est assez long, tu vas voir, ça va prendre 5 minutes. Mm-hmm. On va monter tout doucement jusqu'à 150 degrés, puis après, c'est une histoire de secondes.
Et là, vous avez également une gousse d'ail.
Ouais, une gousse d'ail que je vais émincer à la mandoline aussi. Et qu'on, dès que les carottes seront terminées, on les plongera aussi dans la friture.
Ah oui, on obtient vraiment des pétales.
Donc les carottes, elles sont bien, tu vois. C'est une histoire de secondes. Mmh. Encore peut-être 30 secondes. Je vais les sortir. Je vais d'abord les égoutter sur une petite plaque à trous pour enlever l'excédent d'huile. Mmh. Assaisonner tout de suite. Et puis après, sur un petit papier absorbant et puis on va dresser.
Et là, juste après, c'est les chips d'ail. C'est étonnant parce que les pétales, là, les chips sont encore blanches.
C'est tellement fin qu'entre le moment où tu sors avec ton écumoire les chips de la friture et le moment où tu les égouttes, regarde. Mm-hmm. Elles continuent de cuire en fait. Donc il faut un petit peu anticiper ça.
Et tu es assisté par ton papa qui fait quoi?
Bon, il fait des conneries là, toi.
Je suis en train de travailler un ingrédient qui est sacré pour moi. C'est l'oseille. Je suis en train d'émincer de l'oseille avec le plus de soin possible pour pas abîmer le plat qui est en train de faire César. Voilà.
Des copeaux de carottes frites, vous avez compris le principe. Hein. Là, il s'agit vraiment de lamelles fines.
Des carottes râpées frites, en fait.
Oui, voilà, des carottes râpées frites, exactement, Elvira. Plongées effectivement dans un bain de friture, de l'oseille émincée. Et tout le secret de cette entrée, c'est l'assaisonnement. Et évidemment marqué par...
L'acidité.
Eh ben oui, ouais. L'acidité, c'est la marque de fabrique des Trois Gros. Hein. Et là, on va voir comment ça se passe. Attention, dressage.
Donc, ensuite, sur mon assiette, les câpres au vinaigre. Quelques touches de ce piment. Voilà. Mmh. Et là... de ce piment qu'on fait maison et qu'on appelle sriracha,
d'accord,
une façon thaïlandaise hein, de produire une pâte de piment. Eh bien, je dépose cette frisée de carottes.
Presque un buisson, quoi.
Voilà, de façon très légère, comme ça. Pas forcément, tu vois, formelle. Voilà, laissons-lui un peu d'imperfection.
Donc, on a le buisson de carottes... les petites pétales d'ail, les fans d'oignons, et puis l'assaisonnement final, donc un bon jus de citron jaune,
voilà,
et huile de noisette.
Allez, un petit filet d'huile de noisette. Ouais.
Waouh.
Voilà. Et là, il faut manger assez rapidement.
Et ben, c'est ce que
parce que l'assaisonnement aurait tendance à ramollir la carotte. Donc, bon appétit à toi.
Voilà. D'ailleurs, je trouve que notre assiette est assez bien réussie.
On a envie de se jeter dessus. Elvira me demande pendant le son, elle croustille la carotte? Évidemment, c'est le principe, elle croustille, je peux vous assurer. C'est une salade de carottes râpées, mais croustillante.
Ah non,
on
n'entend
pas, la croustillance, mais c'était un truc, je vous jure, un truc de dingue. Croustillant, vif, piquant, un petit peu de notes pimentées. Vous verriez quoi, Sylvie, comme vin là-dessus?
Eh bien, en fait, moi, ça me fait penser un peu à la cuisine chinoise, tout ça, et l'acidité, etc. Mais le vin alsacien que j'ai ramené, la Riesling, ça pourrait peut-être pas mal marché.
Je
me retiens de parler de Chenin.
Bon. Très bien. Mais Chenin, pourquoi pas? Allons-y. Oh, bah, le Chenin, on adore
ça,
évidemment.
En plus, Michel Troigros.
Il adore ça. Ouais. Oui, vous le connaissez, évidemment. Cette entrée est servie chez Troigros depuis quelques jours, puisque la maison a réouvert depuis quelques jours. Ça se passe à Ouche. Tout sur le déménagement de la maison de Michel Troigros et Marie-Pierre, sa femme, accompagnée de leur fils César. Il y a aussi une cave de 25 000 bouteilles qui a quand même été transférée depuis Roanne. Et bien, pour toutes ces infos, rendez-vous sur franceinter.fr. À la page, on va déguster.
Donc là, pour l'instant, on pourrait dire quelques jours, à quelques heures de l'ouverture, eh bien, on est seul dans cette cuisine, César et moi. Et c'est une drôle d'émotion, parce que c'est un nouvel univers pour nous. On est cuisinier, on ne perd pas notre sens de la cuisine, mais c'est un moment un peu particulier qu'on est en train de vivre avec toi.
Dans le brouillard, sous la pluie, un vieillard remonte la pente. Dort déjà depuis longtemps. Ça fait des heures qu'il essaie de rentrer chez lui. Son pub est si loin, ce soir il n'a que trop marché.
Le dimanche anglais, l'été anglais, pardon, de Julien Gasque et le dimanche chinois qu'on va déguster.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
S'offrir une belle sensation chinoise chez soi, à la maison, à ses fourneaux, sans courir les épiceries asiatiques, sans passer non plus la journée dans sa cuisine, c'est une promesse de notre ami Lian Cheng et c'est une recette qui a déjà un certain succès autour de vous.
Oui, alors c'est une recette de ma mère. Mmh. C'est des ailes de poulet caramélisées au citron et au gingembre.
Waouh! Quatre ingrédients.
Voilà.
Pas plus.
C'est une recette qui se résume en quatre ingrédients, pas un de plus. Alors, il y en a un qui est peut-être un petit peu plus difficile à trouver, ouais. qui est le sucre candi en tablette.
D'accord.
Mais bon, on va dans les épiceries asiatiques et on peut le trouver assez facilement.
Et est-ce qu'éventuellement, on a le droit d'utiliser un sucre complet qu'on peut trouver en épicerie bio ou en magasin,
oui.
du genre
oui,
sucre
oui.
muscovado
oui,
ou
ça convient très bien.
Possible, oui, oui. sucre de palme. Alexandre Fontaine valide cette option. Il a l'habitude de faire des remplacements de produits, j'imagine, puisque c'est vous clair. Cuisinez chinois. Alors, aile de poulet caramélisée au citron et au gingembre, ça se passe page 64 de votre livre, Eliane Cheng, à la table d'une famille chinoise. On a eu un vrai coup de cœur pour ce livre aux éditions alternatives. D'abord, il faut tout simplement reconnaître que l'illustration est superbe.
Merci.
Au crayon de couleur, c'est une poêle avec effectivement des ailes de poulet que l'on devine comme ça, bien caramélisées, bien colorées, des lamelles de citron entières.
Oui.
Racontez-nous comment on s'y prend.
C'est assez simple. Hein. Alors, on fait dorer un petit peu les tranches de gingembre dans une poêle.
D'accord, donc il faut du gingembre frais. Hein.
Oui, alors il faut du poulet, du gingembre frais, du citron,
oui.
Non traité évidemment.
D'accord, vous en prenez deux là. Hein.
Voilà, et du sucre candi en tablette.
D'accord.
Alors, dans une grande poêle, vous faites dorer un petit peu les rondelles de gingembre pour faire sortir les saveurs du gingembre.
Oui, vous en laissez un peu, Elvira.
C'est tellement bon.
Alors ensuite, quand le gingembre est bien doré, on met les tranches sur les côtés, on dépose les ailes de poulet.
D'accord. Vous précisez qu'il faut des ailes, c'est important. On ne remplace pas les ailes par des pilons ou d'autres morceaux de poulet. C'est vraiment les ailes qu'il faut demander. Soit on les trouve dans des magasins, soit on les demande à son boucher.
Voilà, c'est ça. Parce que moi, personnellement, j'ai déjà essayé la recette avec des pilons.
C'est pas la même chose.
Non.
D'accord. Donc, ailes de poulet, insistons.
Voilà. Donc voilà, on fait bien dorer les ailes de poulet, sans huile. Hein. Mm-hmm. Et ensuite, quand c'est bien doré, on ajoute les rondelles de citron par-dessus,
oui.
Le sucre en tablette, enfin cassé en morceaux.
D'accord,
on dispose ça
va fondre,
de façon homogène. Ouais. On couvre et on laisse cuire à feu doux pendant environ une heure trente.
C'est ça un peu le secret, c'est-à-dire que ça va attendrir la viande du poulet, le fait que ce soit cuit à couvert.
Voilà, c'est ça.
D'accord, j'imagine, le jus du citron qui va exuder.
Voilà, et puis le gras du poulet qui va sortir.
Wow. Enfin, voilà. Et alors ça caramélise comment du coup ? J'imagine qu'à un moment donné, il faut découvrir, non ?
Oui, alors en fin de cuisson, on retire le couvercle et on laisse réduire un petit peu, on laisse dorer.
Il a goûté Alexandre Fontaine ou pas ?
Non, j'ai pas goûté.
Ah bah ces ailes de poulet caramélisées au citron et au gingembre.
C'est parti.
Vous avez longtemps pensé, vous l'écrivez dans l'introduction de votre recette, que c'était votre maman qui avait inventé cette recette. En fait, elle la tient d'une amie, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est seulement en écrivant le livre que j'ai appris que c'était pas une recette de son invention. Alors moi, je pensais que ma mère était géniale, qu'elle avait inventé cette super recette, mais non, elle m'a avoué que non, c'était pas une invention d'elle.
Et nous l'avons, Eliane Cheng, votre livre sous nos yeux, un livre singulier, très original d'ailleurs dans le paysage de l'édition culinaire, parce que c'est un livre qui se contente pas uniquement d'égrener des recettes. On sent qu'il y a évidemment du sentiment et c'est ça qui nous intéresse dans la cuisine. Vous inventoriez littéralement le patrimoine culinaire familial puisque vous avez quand même un destin familial un petit peu particulier. Vous êtes issu d'une famille de Chinois immigrés où on est restaurateur. Racontez-nous en quelques mots l'histoire de votre famille.
Alors, ma famille est originaire de la campagne dans la province du Jiangsu.
Oui.
Qui est pas très loin de la côte pas très loin de Shanghai. Mon grand-père maternel est parti à Hong Kong pour faire sa vie. Ma mère est née là-bas. Et il est venu en France dans les années 60. Voilà, il était déjà chef cuisinier avant de venir en France, donc il est venu ici avec des amis. Ils ont ouvert un restaurant.
Et votre mère avait quel âge quand elle est arrivée en France ?
Ma mère est arrivée à l'âge de 11 ans. Alors, il faut savoir que mon grand-père est venu tout seul et il a fait venir sa famille, enfin les membres de sa famille, un par un. Donc ma mère a été la première. Il l'a envoyée dans une pension. Et puis ensuite, il a fait venir les frères et sœurs. Voilà.
Et votre famille a tenu plusieurs restaurants à Paris. Alors, il y a eu le Panda dans le 16e arrondissement,
oui.
Il y a eu Poisson d'Or, il y a peut-être des noms de restaurants chinois qui avaient bonne réputation, qui disent quelque chose à nos auditeurs. Il y a eu quand même plusieurs restaurants dans la famille.
Oui, oui, oui. Alors, mes grands-parents ont tenu un restaurant du côté des Gobelins qui s'appelait le Poisson d'Or.
Oui.
Et mes parents en ont eu deux. Mm-hmm. Enfin, je parle des restaurants que j'ai connus.
Oui.
Donc le premier, le Panda dans le 16e, et ensuite Élysée Pékin, dans lequel j'ai plus ou moins grandi.
Ils nous écoutent, vos parents ?
J'espère que oui.
Parce qu'il faut quand même préciser que c'est, je crois, votre maman, sans trahir de secret, qui a quand même préparé les petits plats que vous nous avez apportés.
Oui, alors c'est... Oui, comme c'est leur cuisine, oui. C'est eux qui l'ont préparé. Ma mère a préparé les ailes de poulet et mon père a préparé des pao salés et sucrés.
Les ailes de poulet, c'est vraiment un truc. Je viens de planter les dents dedans, c'est incroyable. Et je comprends en fait pourquoi on utilise cette partie du poulet, l'aile. Je sais que les Chinois aiment beaucoup les os, cartilages. Il faut aller chercher comme ça avec les dents. On a le droit de manger avec les doigts quand même en Chine, évidemment, oui. Alexandre Fontaine.
Oui, on peut. Oui.
On peut, comment ça on peut.
Bien sûr. Là, on a plutôt intérêt, on n'y arrivera pas.
À la source ou à la maison.
Ah oui, non, mais sinon, on s'y prend avec des baguettes. Pour.
Au moins pour le prendre.
D'accord. Vous nous faites une démonstration, non ?
Ah, des baguettes ?
Est-ce que vous avez goûté ça ?
Très pointilleux, Alexandre.
Oui, j'ai goûté. J'ai goûté.
Alors ?
C'est très bon, j'adore. Enfin, moi, je n'avais jamais goûté. Je n'ai pas préparé cette recette-là. J'en ai préparé d'autres du livre d'Eliane, mais celle-ci, je la referai à la maison.
Il faut quand même préciser à nos auditeurs que c'est un peu grâce à vous, Alexandre Fontaine, qu'on a invité Eliane Chung. Vous avez signalé, puisque vous êtes assez actif sur les réseaux sociaux, que ce livre était pour vous un coup de cœur. Pourquoi vous l'avez aimé ?
Déjà, il a le mérite d'exister en France, parce qu'il faut bien avouer qu'il n'y a pas énormément de livres qui parlent de cuisine chinoise en France, alors qu'à l'étranger, dans le monde anglo-saxon, il y a énormément de livres sur ce créneau. Surtout en ce moment, il y a une vraie tendance. Donc, j'espère que ce livre-là et d'autres là, qui sont sortis récemment vont être le début d'une longue série. Et ensuite, j'aime ce livre parce que ça raconte l'histoire de la famille d'Eliane. Et je pense que ça raconte l'histoire de beaucoup de familles d'immigrés chinois en France. Et donc ça, c'est émouvant à lire. Et moi-même, j'ai été très ému en lisant cette première partie parce que ça m'a fait penser... à l'histoire de la famille de ma femme qui est d'origine hongkongaise et qui a un petit peu le même parcours que Eliane. Et ensuite, après, sur le contenu, alors bien sûr, il y a les illustrations qui sont superbes, mais sur les recettes, je trouve que ce sont des recettes simples à faire, accessibles.
Vrai, qui décomplexent véritablement le cuisinier amateur.
Et puis, elles sont très diversifiées. C'est-à-dire que en cuisine chinoise, quand on fait un repas chinois, on a des plats de toutes sortes. Mmh. On va avoir une soupe, un poisson, des légumes, une viande. Et donc du coup, dans ce livre-là, à mon avis, on a tout ce qu'il faut pour s'organiser à la maison un repas chinois facile.
Et c'est une espèce de synthèse de la cuisine chinoise, parce que dans la mesure où vous êtes héritière d'une famille de cuisiniers à Paris, ils ont déjà, à leur époque, quand ils tenaient leur restaurant, contribué à vulgariser la cuisine chinoise, l'adapter à nos palais d'occidentaux. Et du coup, on se retrouve avec un répertoire d'abord qui pioche un peu partout en Chine. Alors, il y a évidemment des influences du Jiangsu, qui est vraiment cette province côtière d'où est originaire vos parents. Mais... on va piocher ailleurs, il y a du Mapo Tofu. Le Mapo Tofu, on peut en dire un mot, là pour le coup c'est sichuanais, c'est ça ?
Oui, c'est un plat du Sichuan, mais qui a traversé vraiment toutes les frontières, quoi. Qui est même beaucoup cuisiné au Japon.
Il y a également une autre recette dont vous m'avez beaucoup parlé, les boulettes tête de lion, en un mot, c'est quoi ?
Alors c'est des grosses boulettes de porc. Dans une sauce brune avec du chou. Et on appelle ça tête de lion parce que les boulettes sont censées représenter la tête et le chou, la crinière.
C'est ça.
Voilà. Et c'est une spécialité de notre région.
Alexandre Fontaine, le gourmet parisien, c'est un peu votre pseudo sur les réseaux sociaux. Vous êtes assez actif, on l'a dit, sur Instagram, Twitter. Vous avez également un blog qui est très fréquenté. Et vous avez le mérite, dans un paysage gastronomique où on s'intéresse pas tout le temps assez à la cuisine chinoise, comme vous le disiez, et bien de nous éclairer sur une région de Chine en particulier, liée à votre destin conjugal. Racontez-nous un peu comment vous êtes venu justement à cette cuisine cantonaise et hongkongaise.
Bon, ça date déjà un petit peu. Hein. C'était il y a 10 ans que je suis parti pour la première fois à Hong Kong avec ma femme. Et,
qui est donc originaire de là-bas.
Qui est française, née en France, mais de parents hongkongais. Mm-hmm. Et donc du coup, on est allé ensemble là-bas. Et bon, dès que je suis arrivé, sorti de l'avion, on nous a invités dans un restaurant très chic de cuisine classique cantonaise. Et là, on m'a fait manger... voilà, de tout, des ormeaux braisés, du concombre de mer. Donc j'avoue, pour moi qui vient plutôt de la campagne en France, je connaissais rien de la cuisine chinoise, faut l'avouer, à ce moment-là, je connaissais absolument rien. Et donc du coup, sorti de l'avion avec encore mon plateau repas de Classeco dans le ventre, c'était un petit peu compliqué. Mais pour autant, ce que j'ai apprécié, c'est cette envie de partager des bonnes choses, d'être comme ça tous autour de la table, de parler nourriture.
Il y a un point commun entre la France et la Chine, absolument, d'ailleurs, à ce sujet.
Et donc là, je me suis tout de suite trouvé des atomes crochus avec cette famille. Et le déclic, il est venu le lendemain, en fait. Parce que ça, cet environnement-là, ces restaurants, c'est un peu chic, bon, c'est pas forcément mon truc. Et le lendemain, un autre oncle qui est chauffeur de taxi le week-end, m'emmène dans une petite gargote dans le quartier de Tin Ho.
C'est là où ça devient intéressant, Hong Kong. J'en ai vécu l'expérience aussi.
Et là, en fait, ça a été pour moi vraiment le déclic, parce qu'on était dans un restaurant qui fait des marmites de riz, des pots de chai fan, et là, les gens étaient sortis du travail, il y avait des familles, des enfants, la cuisine se faisait au bord du trottoir, ça sentait bon.
Mais vous voulez parler du congee ou rien à voir?
Non, ça n'a rien à voir.
D'accord. C'est une espèce de bouillie de riz. Hein.
Cela dit, ça n'a rien à voir. C'est avec du riz, d'accord, c'est dans une marmite en terre cuite, ça se cuit au feu de bois, et dessus, on met tout un tas de choses, et les miennes, à l'époque, était avec des saucisses cantonaises. Mm-hmm. Donc ça aussi, je suis tombé amoureux de cette petite saucisse-là. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai eu le déclic pour la cuisine cantonaise.
C'est autant le contexte et le rituel qui vous ont plu que ce que vous mangez. C'est un ensemble.
Absolument. Et les gens, les cantonais, moi, ce qui m'a beaucoup touché dans cette famille, dans les cantonais en général, c'est ce souci de la famille, ce sens du... Enfin, les gens qui travaillent beaucoup, qui ont le sens du sacrifice. Et ça m'a beaucoup touché.
Et depuis, il a carrément été, on peut le dire, envoûté. Je crois que vous avez aligné quand même une vingtaine d'aller-retour à Hong Kong, vous en avez fait un hobby, puisque rappelons que la cuisine n'est pas votre métier, vous travaillez dans un autre métier qui n'a rien à voir, on donnera pas son identité d'ailleurs. Là on reçoit le gastronome parisien très très porté sur la chose hongkongaise. Une petite recette, juste avant qu'on entame notre pause musicale, une petite recette, puisque vous adaptez beaucoup aussi de saveurs chinoises à la maison, vous cuisinez beaucoup à Paris, donc... Oui. C'est pas très compliqué d'ailleurs, puisque vous adaptez aux ingrédients locaux.
Moi, je milite pour que on ait une idée beaucoup plus simple de la cuisine chinoise. Et notamment là, ce que j'ai préparé, c'est un poisson vapeur gingembre ciboule.
Vous voulez parler de l'aile de raie qu'elle vira renverser sur le plateau?
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Elle-même.
C'est très collant. En plus, il y a du collagène, faut le savoir.
Absolument. Alors là, j'ai préparé une aile de raie parce que bon, c'est un peu plus tendre. Quand c'est réchauffé, je me voyais pas ramener un poisson entier. Mais normalement, on fait ça avec un poisson entier. Et en France, on le fait avec un bar, une dorade.
Tout à fait.
Peu importe.
Un turbo.
Si c'est la saison.
Et que l'espèce n'est pas trop menacée.
Et donc, c'est un plat extrêmement simple à faire. C'est un grand classique des restaurants de fruits de mer.
Non, elle a l'air de s'y prendre un peu mieux, d'ailleurs. Je me demande si elle n'a pas fait l'école hôtelière, en fait. Elle est en train de...
Je suis trop loin du micro pour me défendre.
Oui, c'est ça. Mais alors, comment on s'y prend? Donc, on a cette aile de raie. Je crois que c'est le principe d'une cuisson à la vapeur.
Alors oui, d'un côté, on fait cuire le poisson à la vapeur avec une vapeur très douce pour éviter que la chair soit trop ferme.
Une aile de raie, en l'occurrence, quand c'est à peu près 500 grammes, on met quoi? C'est comme cuisson à la vapeur, ça prend combien de temps?
15 minutes, je pense.
D'accord.
Et à côté, on fait la sauce à base de sauce soja pour poisson. De l'huile sésame, du sucre, du sel, un peu de poivre.
Du gingembre?
Non, il n'y a pas de gingembre. Alors le gingembre, pardon, j'ai oublié de le préciser, il se dispose en julienne sur le poisson pendant la cuisson vapeur.
D'accord.
Pour qu'il s'attendrisse et qu'on puisse le manger.
Donc là aussi du gingembre frais, mais par contre il est cuit avec le poisson, c'est pas dans la sauce.
Exactement. Et à côté, troisième préparation, c'est de l'ail haché qu'on fait frire avec de l'huile. Et on vient verser cette huile aillée, bien chaude, sur le poisson à la fin. Donc on a le poisson vapeur, le gingembre, on rajoute de la ciboule en fin de cuisson et cru un petit peu au moment du dressage, et l'huile avec de l'ail, et puis ça suffit, c'est tout.
Oh là là, c'est... Et c'est un plat de partage qu'on met au milieu de la...
C'est un plat de partage, c'est un plat aussi pour les grandes occasions, parce que le poisson, ça a une signification... donc pour toutes les fêtes chinoises, généralement, il y a un poisson vapeur, je pense que c'est assez classique chez les cantonais. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est une base... pour imaginer d'autres recettes autour de ce poisson. Mmh. Il y a plein de déclinaisons avec des sauces aux haricots noirs. Il y a des chefs aujourd'hui hongkongais de la nouvelle génération qui revisitent ce plat de manière assez incroyable.
Et ben ce plat circule autour de ce plat. Non, c'est incroyable. Mmh. Vous êtes d'accord ou pas, Céline?
Ouais, c'est très bon.
C'est très bon, non? Mmh. La petite note aillée, on sent le léger piquant du gingembre. Il y a en même temps ce côté un peu aigre-doux et ce sucre qui vient caresser le palais. Oh,
Ah non, c'est vraiment... Alors, Eliane,
oui, alors, oui, pour ajouter une chose, le poisson à la vapeur à la cantonaise, c'est un plat qu'on a quasiment tous les dimanches midi chez mes parents.
Et ben voilà. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'on vous a invité.
C'est vraiment un plat classique.
Mais par contre, on va créer une dispute familiale. Vous allez nous dire si le poisson d'Alexandre Fontaine est meilleur que celui de votre maman. Réponse juste après le disque. It's happening again, Agnès Obel, les saveurs d'une famille chinoise au menu dont on va déguster en ce dimanche. Nous sommes en direct avec Eliane Cheung, auteur d'un livre formidable, on l'a assez dit, à la table d'une famille chinoise, recette de mes parents aux éditions alternatives, avec de très belles illustrations que vous avez vous-même signées. Et puis Alexandre Fontaine, notre ami très porté sur la cuisine chinoise pour des raisons conjugales, qui a un blog, legastronomeparisien.fr, et un nouveau site qui vient de sortir, si j'ose dire. Je vous laisse en dire un mot.
ParisHongKong.fr.
Oui.
Et l'objectif de ce site, c'est de mettre en avant la culture hongkongaise, la gastronomie hongkongaise et la ville de Hong Kong.
S'il fallait, en un mot, on sait que Hong Kong est une ville absolument formidable, l'un des ventres les plus enthousiasmants du monde. C'est une capitale où on peut vraiment déguster des choses et pas que dans des étoiles... pas que dans des restaurants justement très réputés et très chers, dans des petites gargotes, on peut souvent déguster des dim sum pour l'équivalent de quelques euros. C'est quand même une ville frénétique au niveau de la gastronomie.
Ah oui, c'est assez dingue la diversité en matière de cuisine. Alors bien sûr, la cuisine hongkongaise, c'est d'abord une base de cuisine cantonaise, avec ce qu'on en connaît, la cuisine des fruits de mer, des poissons, les dim sum, la rôtisserie. Donc ça, c'est la base de la cuisine cantonaise. Et ensuite, après, la cuisine hongkongaise est devenu à créer ses spécificités avec les influences extérieures, les influences anglaises, russes, et même d'autres plats. Il y a des gens du Moyen-Orient qui ont aussi immigré à Hong Kong. Et puis aussi, faut aussi reconnaître que Hong Kong, ayant fait l'objet d'un développement économique un peu plus avancé que le Guangdong, du coup, forcément, ça a transformé aussi la gastronomie cantonaise là-bas, avec des restaurants un peu plus chics, plus évolués, plus raffinés dans la cuisine. Et puis, aujourd'hui, Hong Kong est à l'avant-garde de la cuisine cantonaise, avec des chefs qui réinventent complètement les recettes traditionnelles, qui se les approprient et qui créent des choses complètement nouvelles. Et pour ça, Hong Kong, c'est vraiment très intéressant pour tous les gourmets en herbe.
Oui, c'est sûr. On invite nos auditeurs à y aller. Pas mal de questions, Elvira.
À Canton et à Hong Kong, justement, des bao, des petites brioches vapeur.
La grande folie des bao, même en France, en ce moment.
Et on a pas mal de questions.
Définition de bao. Oui.
C'est une brioche vapeur. C'est un peu plus complexe que ça.
Bao, ça veut dire...
Je ne peux pas faire un quart d'heure dessus. Non, il est bien, mais...
Voilà, c'est une brioche.
Non, mais quand même, vous nous frustrez. Il s'agit quand même d'une brioche à base de farine de blé.
Oui, tout à fait.
Cuite vapeur, et parfois fourrée.
Cuite vapeur, et toujours fourrée.
Toujours fourrée.
Toujours fourrée, avec toutes sortes de choses sucrées, salées, en fonction de... Enfin, qu'on soit au nord ou au sud de la Chine, qu'on soit à Hong Kong, il existe toutes sortes de recettes. Ça se mange aussi en dessert, voilà, il y a toutes sortes de déclinaisons, ça existe, il y a des recettes à l'infini.
Vous consacrez quelques pages, Eileen Chung, dans votre livre au bao. D'ailleurs, il y a des petits dessins que vous avez concoctés pour étape après étape pour vraiment faire des bao. C'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire à la maison quand même.
Non, mais ça reste accessible. Ça reste assez accessible. Le plus difficile, c'est le pliage en fait.
D'accord.
Voilà.
Et vous nous en avez apporté ?
J'en ai apporté, donc fait par mon père. Il s'agit des deux recettes qui sont
dans le
livre.
On a quand même trois boîtes.
Oui, mais elles ne seront pas perdues, rassurez-vous.
Et pas petites, les
boîtes. Ah oui, non, mais il les fait par centaines, donc...
Oula.
Oui.
Ah oui.
Donc il y a des pas au porc et au cresson.
Oui.
Et les pas au sucré que je préfère, au haricot rouge.
Mmh. Oh là là, on peut...
Et bien sûr, donc là, je pense qu'ils sont chauds.
Oh là 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 là. Des petites brioches rondes, ça fait à peu près 5-6 cm de diamètre. Et en général, il y a un effet nuage en bouche. Oh là là. Il y a vraiment un effet...
Ouais, c'est très moelleux.
Voilà. Elles sont encore tièdes.
Extrêmement moelleux, mais moelleux, c'en est presque suspect tellement c'est moelleux.
C'est le travail de la pâte.
Oh, voilà, qu'est-ce que c'est bon. C'est vraiment un petit édredon absolument superbe. Et là, il y a la farce qui est quand même assez relevée. C'est porc et cresson, c'est ça ?
Porc et cresson, oui.
Et ça cuit en panier vapeur ?
Voilà, c'est
tout simplement. Ouais. Combien de temps ?
Une dizaine de minutes.
Voilà, c'est bon.
La texture est incroyable.
On aurait presque pu les faire réchauffer un peu plus, mais c'est vraiment délicieux. D'autres questions, Elvira ? Pardon.
Précisément, le piège, c'est encore refermé sur moi. Certains auditeurs nous demandent précisément s'il existe une recette un peu simple pour faire des bao à la maison, mais bon, on a vu que...
On invite éventuellement les auditeurs à se référer au livre d'Eileen Chung, voilà. Vous êtes d'accord ?
Oui.
Vous en faites vous-même ?
Moi non, parce que j'ai mes parents à portée de main, donc...
Et vous avez pensé quoi de l'aile de raie d'Alexandre Fontaine ?
Bah, c'est très bien, moi.
Au poisson vapeur de maman ?
C'est très bien, moi ça m'a rappelé, je me suis sentie presque comme chez moi, comme chez mes parents.
Donc match nul.
Oui.
C'est gentil.
Ça compense le déjeuner dominical que je vais louper là.
C'est ça. Quelle diplomatie. Et comme les choses et la vie est bien faite, pour accompagner tout ça, un peu de liquide. Sylvie, à vous de jouer. Ouais, vous avez aussi la bouche pleine.
Ouais, je termine. Je bois un petit coup, non, j'ai pas le temps. Alors moi, j'aurais bien aimé vous apporter un vin chinois, mais on n'en trouve pas en France, malheureusement, pour le moment. Et pourtant, là-bas, ça commence vraiment à bouger. Il commence vraiment à y avoir des choses à boire, du vin plus artisanal que ce qu'on a fait avant, et qu'on mélange plus forcément maintenant au coca.
Ça viendra. Oui, c'est ça. Mais ça viendra un jour, alors, le vin chinois.
Ça va bien. Moi, j'ai déjà goûté des trucs pas mal.
On en trouve chez Soif d'ailleurs à Paris.
Oui, mais bon, pour les auditeurs, c'était pas non plus facile de.
Effectivement.
Voilà. Et moi, j'ai goûté des choses déjà assez intéressantes. Voilà, mais bon, ils ont aussi, voilà, on découvre, on défriche. Mais de toute façon, la Chine, c'est une culture de goût. On en parle. Et ça devient aussi un pays de vin. Voilà, ça plante à coups de milliers d'hectares dans des conditions extrêmes. On enterre les vignes l'hiver, on les déterre au printemps. On construit des gros châteaux au milieu. Et puis, on ouvre aussi plein d'écoles de dégustation. Ça fleurit partout. Ça intéresse vraiment les Chinois. Mais bon, pas de panique. Il n'y a pas de risque d'invasion pour le moment. Voilà. Quand les Chinois boiront 5 litres par habitant et par an, il n'y aura plus de vin sur la planète.
Par contre, les Chinois rachètent nos châteaux, pas souvent les meilleurs d'ailleurs, mais bon, c'est autre chose, c'est notre question.
Il n'y a pas que les Chinois. Voilà. Et donc, à propos d'invasion, j'ai eu envie d'aller chercher du vin en Alsace.
Ah,
mauvaise blague. Parce qu'on n'y va pas souvent en Alsace, Parce que il y en a pas beaucoup dans les restaurants, c'est toujours des bouteilles trop longues qui logent pas dans les casiers.
Ah oui.
Voilà.
Elle est longue et longue et longiligne et grande cette bouteille.
Voilà.
De
et puis on a toujours peur de. Bah moi qui la trimballe dans mon sac dans le train, ça dépassait. Alors que d'habitude ça dépasse pas.
C'est vrai.
Ouais. Et puis on a souvent peur du sucre aussi. On a peur aussi des écœurements. Il y a eu de l'exagération, le côté balcon de géranium alsacien quoi. Et donc voilà. Mais aujourd'hui, l'Alsace commence sérieusement à bouger. Et le vin naturel lui va vraiment bien, ça a éteint un peu aussi toutes ses ardeurs. Et surtout, il va bien à cette cuisine chinoise qui a besoin de vin blanc, alors qu'on y met souvent du rouge. Et les Chinois ont la culture du rouge, le drapeau aussi. Voilà. Et elle a besoin aussi de beaucoup de fraîcheur pour que l'acidité tienne les épices.
C'est ça.
Voilà, il faut pas de vin trop fragile ou trop délicat, il faut que ça tranche.
Oui.
Et c'est aussi une cuisine très énergique qui a besoin. Alors c'est drôle, j'ai longuement discuté avec Hélène Yuan qui a fait 10 ans d'accord mes vins dans un super restaurant chinois à Bordeaux. Ça s'appelle Le Bonheur du Palais.
Ah mais oui, voilà. Super restaurant. J'ai pas eu la chance de m'y attabler, mais vous en avez entendu parler, Alexandre Fontaine.
Oui, il est connu, mais je ne suis jamais allé non plus.
Ouais, une vraie gastronomie chinoise.
Ouais.
Et puis avec une carte des vins extraordinaire. Mm-hmm. Et donc c'est drôle parce que Hélène Yuan elle disait moi je retrouvais vraiment le pendant dans les vins en biodynamie. Cette énergie, elle la retrouvait dans ces vins-là. Et donc ça tombe bien parce que l'Alsace c'est la terre de la biodynamie.
Ouais.
C'est là où la première ferme en biodynamie s'est créée, l'année qui a suivi le discours de Rudolf Steiner en 1924 qui a déclenché en fait cette histoire de biodynamie dont on nous saoule.
Et oui, mais enfin c'est voilà. Important.
Mais justement, j'ai pris un vigneron qui est pas en biodynamie.
D'accord.
Il est en bio. Il essaie de rester dynamique, ça c'est ce qu'il dit. Mais c'est pas facile de trouver un vigneron qui est pas en biodynamie en Alsace. Hein.
Ah oui.
Et ouais. Donc voilà, c'est un type plutôt jeune, plutôt discret. C'est pas un gourou, c'est pas un orateur, c'est un gars qui fait son boulot. Voilà. Et puis il aime son boulot. Et puis il a toujours su que ce serait le sien, ce boulot. Son père a fait des patates, des céréales, des bêtes, un peu de vin, jusqu'à la grande claque de l'industrialisation de l'agriculture qui a rendu les agriculteurs monoculteurs, comme les autres. Voilà. Et Jean-Pierre, quand il sortait de l'école, il allait dans les vignes.
Oui.
Et puis il a rejoint son père en 87. Puis gentiment, il s'est converti en bio en 2008, donc oui, ça met un peu de temps, hein, il prend le temps.
Mmh.
Voilà. Mais comme il aime ce qu'il fait, c'est du bon sens paysan, quoi. Mais comme il aime ce qu'il fait, il aime goûter, il sait que c'est dans la dégustation quand même tout ça. Il a vite remarqué que avec le bio, on gagnait quand même plus de fond. Les terres se réveillaient, il se passait plus de choses, on allait vers la minéralité. Et puis comme ça le passionne un peu, il a monté avec des copains un groupe de dégustation où ils ouvraient des bouteilles à l'aveugle toutes les semaines. Et comme il trouvait certaines bouteilles meilleures que les autres, il a contacté les gars qui les faisaient. Alors c'est des Jean-Pierre Frick, des Patrick Meyer, des Bruno Schuller, première génération des vins un peu nature en Alsace.
Des belles signatures alsaciennes.
Voilà, des belles signatures. Et puis qu'on débroussaillait tout ça, quoi. Et qui font donc du vin avec le minimum d'intrants dedans. Voilà, et Jean-Pierre Rich, ça lui a plu, il s'y est mis, appuyé par le conseil de ces mêmes gens. En fait, ce que je voulais un peu vous expliquer aujourd'hui, c'est que c'est souvent comme ça que ça commence, les vins naturels. C'est pas un marché qui a été inventé à Paris dans les bistrots par une caste bourgeois bohème, comme les journalistes nous le rabattent souvent.
Mmh.
Voilà, ça vient de l'envie des vignerons. C'est eux qui ont envie de retrouver leur raisin, de pas l'abîmer avec des intrants, des soufres, enfin, trop de sulfite, trop de filtration. Et voilà, pour ces gens-là, ils ont fait ces vins-là, souvent sans savoir que Paris en boit.
Absolument.
Voilà.
Ça permet de recentrer un peu le débat,
quand même. Et là, quand même, Paris en boit. Apparemment, elle vira bien aimée.
Mais c'est super, ça remet les papilles
d'équerre. Deuxième verre.
Je vais vous dire, quand on a l'image du Riesling qui est effectivement parfois un petit peu pesant en sucre, mm-hmm. Là on est sur quelque chose qui remet les papilles d'équerre, on est presque strident
pourtant,
au début.
Et pourtant, pour entrer sur un terroir très chaud.
Et c'est salivant.
Ouais. C'est très salivant, c'est très salin. Mm. Et on retrouve aussi les côtés fumés qu'il y a un peu dans la cuisine chinoise. Et il y a du minéral, c'est un vin super énergique et qui tient sur cette cuisine-là, je pense.
Et ça tient bien sur cette aile vapeur, c'est vraiment, vraiment, vraiment superbe. Vous nous rappelez les références, chère Sylvie?
Alors, ça s'appelle, attention, en alsacien,
ouais.
Brandluft, ça veut dire air de feu.
D'accord.
Et c'est donc un Riesling 2014. Ça vaut aux alentours de 13-14 euros. Voilà, vous le retrouverez sur le site.
Et c'est vraiment chouette.
C'est Jean-Pierre Rich.
Rich, R-I-E-T-S-C-H. Absolument, toutes les références à retrouver sur le site. C'est une très belle découverte. Merci beaucoup, Sylvie, d'intégrer un peu d'Alsace dans cette émission chinoise. Allez, une petite recette qui est vraiment votre madeleine d'enfance, Eliane Cheng. Elle est toute simple. Elle va décomplexer nos auditeurs à la maison, puisqu'il faut là que deux ingrédients. Je veux parler d'œufs et de ciboule.
De ciboulette chinoise.
Oui.
Voilà. C'est un peu ma madeleine de Proust. C'est aussi la madeleine de Proust de mon père.
Oui.
Ma grand-mère l'a préparé pour mon père nous la prépare aujourd'hui. C'est une recette qui est très très simple, qu'on fait beaucoup à la maison.
Alors elle n'est pas compliquée. Hein.
Non, c'est très très simple. Alors, le plus compliqué, c'est de trouver cette ciboulette chinoise.
Alors, la ciboulette chinoise, ça peut être, on peut prendre éventuellement des oignons nouveaux, parfois... Non, d'accord, oula. Elle me fait la tête, alors le regard noir. Là. Des cébettes, éventuellement, dans le sud? Non plus.
Non,
parce que des cives. Non. Aux Antilles.
Ça, non,
des
ça...
oignons pays.
Non. Ça ciboule chinoise. Non, c'est un goût vraiment particulier.
Ah oui, alors ciboule chinoise. Voilà. Donc l'affaire se complique. Je suis désolé.
Donc voilà. Une fois que vous avez trouvé cette ciboulette.
Et rien d'autre.
Donc vous avez donc des œufs qu'il faut battre comme pour une omelette. Mm-hmm. Vous faites chauffer un peu d'huile dans une poêle. Vous faites revenir un peu la ciboulette ciselée.
Une minute.
Oui, non, même pas.
D'accord.
30 secondes.
Un peu façon wok, feu fort.
Feu fort, oui, pour faire. C'est toujours le même principe, pour faire ressortir les saveurs. Mm-hmm. Et ensuite, vous versez les œufs et puis vous mélangez délicatement jusqu'à ce que les œufs soient pris.
On mélange avec une cuillère en bois.
Des baguettes.
Ah oui, des baguettes. Waouh. Et là, on mange ça avec quoi? Un bol de riz blanc?
Un bol de riz blanc.
Oh,
voilà,
là, super. Éclairez-nous quand même juste, Alexandre Fontaine, pardon, vous qui avez l'habitude encore une fois d'adapter la cuisine chinoise à Paris. La ciboule chinoise, on la trouve où? On fait quoi quand on habite à Nantes ou à Limoges?
Oh, je serais un petit peu moins à cheval que qu'Eliane. Hein, Non mais il faut vraiment se décomplexer par rapport à ça. Et, bon, à Paris, on a la chance d'avoir des épiceries chinoises, mais il faut faire avec avec les ingrédients qu'on trouve. Je veux dire, moi je suis pas. On est en France, donc il faut aussi appliquer à la cuisine chinoise et à la cuisine étrangère quand on la pratique en France les principes du bien manger qu'on s'applique pour la cuisine française. Mm-hmm. Il faut essayer de consommer local, il faut essayer de suivre les saisons. Je veux dire, c'est pas parce qu'on fait de la cuisine chinoise qu'il faut utiliser des aubergines qui viennent de Thaïlande, qui ont passé des semaines dans les frigos, etc. Il faut utiliser des produits qu'on a ici, quitte à ce que le goût soit un peu changé.
Voilà.
Mais on est
bon,
en France.
Après, il y a des produits qui peuvent avoir leur spécificité propre, etc. Mais bon, comme par exemple, allez, au hasard, des desserts chinois.
Mettez le couvert, on va déguster sur France Inter.
On passe au sucré avec Elvira.
Et au hasard, plus précisément, ça vous dit un millefeuille de crêpes à la mangue?
Bah moi, je veux goûter ça tout de suite.
Vous.
Par contre, Alexandre Fontaine, il a l'air de connaître ça par cœur parce que tout d'un coup, il a un énorme sourire jusqu'aux tempes.
Pour tout vous dire, c'est Alexandre qui m'a mis sur la voie de ces desserts originaires. Au départ, on pourrait dire de Hong Kong, dont je ne connaissais pas l'existence et qui a mis le doigt. Ouais, c'est ça. C'est précisément ça. Vous voyez ce coussin de crêpes très blanche.
Pourtant, il peut y avoir un côté, au premier abord, un peu flashy, un peu kitsch. Mais en bouche, attention, verdict.
En même temps, je trouve ça plutôt joli, moi. On voit bien que ce ne sont pas des colorants. C'est joli. Ouais. Ce serait kitsch si c'était bourré de colorants. Là, c'est plutôt. On voit bien que ce sont des produits plutôt naturels.
Ça peut faire un peu cuisine de ma maman des années 70.
Un peu, voilà. C'est un côté un peu vintage. C'est exactement ça.
C'est super bon. Voilà.
C'est comme un gâteau de crêpes.
La mangue fraîche. Oui, c'est ça.
Mais vous sentez la texture de ces crêpes, comme elles sont aériennes, un peu élastiques.
C'est dingue.
Et avec un coulis de mangue fraîche.
Extrêmement
agressif. C'est une
merveille.
Alors, ça, c'est un des clous du spectacle de ce que j'ai goûté dans un restaurant de dessert à Paris. C'est un phénomène qui n'est pas pour me déplaire, ce phénomène. Ils sont très nombreux à Hong Kong, ces restaurants de dessert. Le phénomène est né dans les années 90. Le fer de lance est une chaîne que vous connaissez bien, Alexandre, qui s'appelle Honeymoon Desserts. Ils se sont ensuite implantés en Chine continentale et un peu partout en Asie. On en trouve, j'en ai vu à Londres, à New York, on en voit au Canada, on en voit un peu partout.
Il y a des succursales, pas tout officielles,
cette
chaîne qui a énormément de succès en Asie, mais on en trouve au moins partout en Asie. Ça,
mais c'est assez récent, cette tendance à Paris.
Je crois que cette chaîne a été créée dans les années 90.
Les années 90 à Hong Kong.
Mais ils se sont appuyés sur des habitudes alimentaires qui existaient déjà, sur les restaurants de ce qu'on appelle les soupes sucrées, les
tang soy.
Et donc voilà. Et ensuite, après, ils ont rajouté des desserts. Ils en ont inventé à base de fruits. Ils ont récupéré des desserts de Taïwan à base de glace. Voilà. Donc ils ont aussi intégré des desserts d'inspiration anglaise avec de la pâtisserie. Voilà. Donc ce sont ces chaînes-là qui, dans les années 90, ont inventé ce concept de restaurant de dessert avec ce type de dessert-là à Hong Kong et partout en Asie.
Et ce qui est le plus étonnant, effectivement, c'est que ce phénomène-là du restaurant de dessert a commencé à faire florès à Paris depuis 2-3 ans.
C'est
en gros, depuis 2014. Et se sont ouverts coup sur coup en 2 ans. 7-8 restaurants à Paris, c'est plus étonnant parce que c'est quand même assez particulier comme registre. Ça a commencé avec Gimme House, rue de Turbigo.
On le prononce bien ou pas? Oui,
ça va. Oui, c'est très bien.
C'est une langue un peu internationale, là, c'est pas...
Oui, oui.
qui a ouvert une autre adresse dans le 10e. Je vous cite un peu au hasard ces adresses, ces anciennes dont les adresses figurent sur notre site. Il y en a du côté du quartier chinois du 13e, Sweet, Elonie, un deuxième Gimme House, Sweet Talk, Crazy Mango... Et nous, on a un chouchou avec Alexandre, où il m'a emmené il y a déjà un an, qui venait d'ouvrir.
C'est Alexandre qui vous l'a fait découvrir ou pas?
Ouais. Oui, on est allés ensemble. Oui. Ça s'appelle Tang Chuan. On est rue Lafayette, dans le 9e.
Un petit mot, Alexandre, de cette adresse. Comment ça s'appelle?
Tang Chuan.
J'y suis jamais allé.
Qui veut dire pavillon du sucré, non? Tang Chuan, quelque chose comme ça.
C'est ça, pavillon du sucré, comptoir du sucré.
Comptoir du sucré, oui.
Et là, alors, il se passe quoi?
Ben c'est un restaurant de dessert, mais qui n'est pas comme les autres, contrairement à toutes les autres adresses qui ont été citées, qui copient un petit peu les restaurants de dessert qui existent à Hong Kong. Ce restaurant-là, ils ont inventé un peu un nouveau concept, c'est-à-dire qu'ils proposent des desserts bien dressés, bien présentés, et puis dans une ambiance plus cosy.
L'endroit est très joli, il faut dire.
L'endroit est joli. Et puis aussi, ils associent la dégustation du thé. Au dessert, ce qui n'est pas du tout une habitude.
Un salon de thé à la chinoise où
ils ont inventé quelque chose de nouveau. Alors que les autres restaurants de dessert sont contentés de reproduire ce qui existait à Hong Kong. Là, avec Tang Chuan, ils ont inventé quelque chose de nouveau.
On parle de gastronomie sucrée, de créativité. On y sert notamment donc ce millefeuille de crêpes. Vous avez goûté, Eliane, le millefeuille de crêpes?
Allez,
faut goûter.
François Régis, vous en avez laissé un petit morceau.
C'est superbe.
La même version existe, Alexandre. Je ne sais pas si vous la connaissez, celle-ci, en version rose litchi.
Non,
j'ai un côté encore plus. Non, mais c'est très bon. Non, mais rigolez pas.
Mais j'adore.
C'est vraiment très fin, très délicat.
On va faire goûter avec ce que je connais pas.
Thé matcha. Et surtout, François Régis et Sylvie, goûtez ce coussin de crêpes. C'est le même appareil qui sert à faire le millefeuille à la banane.
Il y a également une
gelée d'herbe aux perles de tapioca. C'est vous qui l'avez?
C'est ultra régressif. C'est incroyable.
C'est incroyable.
On a des enfants là-bas.
Mais bien sûr.
C'est pas trop sucré, étonnamment.
Non, c'est pas très sucré.
Ça va.
Non, clairement.
C'est plus sur le fruit, sur la légèreté, que c'est pas plombant. Hein.
C'est ouvert aujourd'hui à partir de
13h. C'est pas notre millefeuille ou notre religieuse, quand même.
Non, mais allez-y, c'est ouvert aujourd'hui, vous verrez, c'est plein de familles chinoises, c'est plein de familles...
Qui viennent avec leur bambin.
Exactement, c'est merveilleux.
Et vous nous avez concocté un carnet
d'adresse. Un petit carnet d'adresse, oui. Des restaurants de dessert à la mode... Hong Kongo, cantonaux, française maintenant.
Carnet des restaurants de dessert chinois qu'on a mis en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster. Un petit avis, Alexandre Fontaine, sur cette version litchi du gâteau de crêpes. Vous l'avez goûté?
Ah non, pas encore. Il n'est pas arrivé jusqu'à moi. Moi, j'ai mangé le pancake à la banane.
Il nous reste encore une petite poignée de minutes pour évoquer quelques autres recettes, et notamment des perles de riz gluant, cacahuètes, coco, sésame, Alexandre.
Oui. Je vous ai préparé ce dessert.
On ne va pas rentrer trop dans le détail de la recette, sachant que les auditeurs peuvent la retrouver sur le site internet. Mais Elvira, vous nous avez dit que c'était absolument délicieux. Moi, je veux goûter ça. C'est quoi le principe?
Il propose aussi dans le restaurant dont tu as parlé, Elvira.
D'accord.
Alors, le principe, c'est extrêmement simple. Ce sont des boules de riz gluant qu'on façonne avec de la farine de riz gluant et de l'eau.
Ah, c'est un chewing-gum.
C'est un chewing-gum qu'on fait cuire dans un sirop à base de sucre de canne et de gingembre. Et ensuite, après, on parsème ces boules de cacahuètes grillées, concassées, de graines de sésame et de noix de coco.
C'est délicieux. Ces boules, on les trouve?
Ah, les boules, je les ai faites.
Ah, vous les avez faites?
Ah, bien sûr.
Ah non, je pensais que c'était des boules comme les perles de tapioca. C'était des boules qu'on pouvait acheter, qu'on faisait
pas chez moi, non, on fait tout... De A jusqu'à Z.
Et vous dites que c'est très simple.
Oui, c'est extrêmement simple.
Franchement, pour nos auditeurs qui veulent s'y plonger, ça peut le faire, entre guillemets.
C'est tout simple. C'est 200 grammes de farine de riz gluant et 200 grammes d'eau bouillante. On mélange, on façonne avec la main des boules et on fait cuire dans un liquide. C'est pas
incroyable.
Et après, on peut imaginer plein de choses avec ça. On peut associer du fruit, on peut associer d'autres.
C'est ça, de la mangue. Justement, on évoquait la mangue à l'instant, ou du litchi. Et puis une dernière recette signée Eliane Cheng, qui est dans votre livre À la table d'une famille chinoise. Et là, il y a un lien direct à la fois avec Hong Kong, mais également avec notre émission de dimanche prochain, qui sera consacrée, je le dis, aux haricots. Ouais, c'est passionnant, cette légumineuse. Soupe de haricots rouges, sachant que les soupes sucrées, c'est vraiment une tradition cantonaise et hongkongaise. Ouais. Et votre maman prépare une soupe de haricots rouges. Vous nous en dites un mot?
Oui, alors c'est les haricots rouges qu'on connaît mieux sous le nom de azuki.
Oui, c'est ça. Hein, ça, c'est le nom japonais.
Voilà. Donc voilà, les cantonais mangent beaucoup de soupes sucrées. Il y a quelques recettes dans mon livre. Mm-hmm. Ma préférée, c'est la soupe de haricots rouges, qui est très simple à préparer. Il faut juste trouver des haricots rouges.
Ça, on les trouve. Hein, j'ai vérifié. On les trouve.
Oui, on les trouve.
Chez Naturalia ou d'autres magasins biologiques. Il y a Biocoop et quelques autres qui font du haricot rouge. Il y a même maintenant de haricots rouges français.
Oui.
Biologique.
Donc voilà, il vous faut aussi du sucre candi jaune, de l'eau, et puis si vous voulez, vous pouvez ajouter des graines de lotus, des bulbes de lys et des écorces d'agrumes.
Si on se fie à votre dessin, ça fait vraiment très envie. La recette, évidemment, là aussi, se retrouve sur le site internet de l'émission franceinter.fr à la page On va déguster, ou bien évidemment dans votre livre Eliane, qui s'intitule « À la table d'une famille chinoise, recette de mes parents ». C'est aux éditions Alternatives et c'est une très jolie initiative que ce livre très émouvant à mettre dans toutes les belles bibliothèques culinaires. Alexandre Fontaine, merci beaucoup.
Merci François.
On rappelle vos deux sites, www.legastronomeparisien.fr et votre nouveau site où on peut aller picorer plein d'informations sur Hong Kong, la cuisine cantonaise, c'est parishongkong.fr. Dans un instant après le flash de midi, Nicolas Demorand prend le relais avec questions politiques. Sébastien Baour, pardon, on vient de me dire au casque que ce n'était pas Sébastien Demorand, j'en suis désolé. La semaine prochaine, Fayot, je le disais, enfin Fayot, Flageolet, Mogette, c'est la fin des...
Haricots.
Oui, la fin des haricots, elle est bonne celle-là, fin F-A-I-M, avec notamment notre ami maraîcher bio, Xavier Mathias. Merci Sylvie, à la prochaine.
À très bientôt, j'espère.
Merci Elvira.
Merci à tous.
Merci Eliane et Alexandre. À
merci.
Très bientôt.
Au revoir.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim.